Il est 15h ici à Washington DC, Eric Manirakiza avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Le Parlement israélien a voté dimanche ce soir la confiance au gouvernement du nouveau Premier ministre Naftali Bennett qui succède à Benjamin Netanyahu au pouvoir depuis 12 ans. Sur les 119 députés, sur 120 au Parlement, 60 ont voté en faveur de la nouvelle coalition qui va de la droite à la gauche en passant par l'appui d'un parti arabe. 59 députés, principalement du parti Likoud, de M. Netanyahou, de l'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes s'y sont opposés. Un député de la liste arabe, Ram, qui soutient pourtant la coalition, s'est lui abstenu. Dans la foulée, chaque membre du 36e gouvernement israélien a prêté serment à la tribune de la Knesset, à commencer par Naftali Bennett. Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche soir pour fêter le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahou au pouvoir pendant plus d'une décennie. Une foule en liesse a envahi la place Rabin dans le centre de Tel Aviv pour célébrer le changement de gouvernement entériné dimanche par le Parlement par une courte majorité de 60 députés pour la nouvelle coalition et 59 contre. Le président américain Joe Biden a félicité le nouveau Premier ministre Naftali Bennett qui succède à Benjamin Netanyahou. Au nom du peuple américain, je félicite le Premier ministre Naftali Bennett, le Premier ministre par alternance et ministre des Affaires étrangères Yair Lapid et tous les membres du nouveau gouvernement israélien, a dit M. Biden dans un communiqué en disant avoir hâte de travailler avec M. Bennett pour renforcer les aspects de la longue et étroite relation entre les États-Unis et l'Israël. Les ministres de la Justice de Donald Trump doivent s'expliquer devant le Congrès sur la saisie de données de parlementaires pendant une enquête sur des fuites d'informations, a affirmé dimanche la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. On a sapé l'état de droit, a-t-elle dit sur CNN, estimant au-delà de l'imaginable que les deux anciens ministres, Bill Barr et Jeff Sessions, aient dit qu'ils ne savaient rien de cette affaire. La reine Elisabeth II a reçu dimanche le président américain Joe Biden au château de Windsor à l'ouest de Londres à la fin du sommet du G7. Ils ont écouté les hymnes britanniques et américains sous un soleil radieux, puis sont rentrés prendre le thé avant que Joe Biden ne reparte pour Bruxelles où il doit participer lundi à un sommet de l'OTAN. La reine a déjà participé vendredi à une réception à Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pour la première soirée du sommet du G7 avec Joe Biden. Les résultats des élections législatives organisées samedi en Algérie seront annoncés dans les jours à venir, a déclaré le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Le pouvoir en place espère que ces élections, conjuguées à une récente vague de répression, permettront de tourner la page de 2 ans de contestation dans la rue, baptisé de Chirac. Moins d'un électeur sur 3 a voté. La participation samedi a été de 30,2%, la plus faible jamais enregistrée officiellement pour des élections législatives en Algérie. Des responsables l'ont néanmoins jugé acceptable. Quelques 24 millions d'Algériens étaient appelés à élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale pour 5 ans. Le président zambien Edgar Lungu, 64 ans, candidat à sa propre succession à la présidentielle en août, a été victime d'un malaise dimanche lors d'une cérémonie officielle, a expliqué la présidence après l'interruption de l'événement retransmis à la télévision nationale. Le président a été pris de soudain vertige et cet après-midi a expliqué la présidence dans un communiqué. Il est immédiatement rétabli. Monsieur Lungu continue à remplir ses fonctions de chef d'État, a-t-elle ajouté. La RDC va reporter à janvier 2022 une série d'hommages à son héros national Patrice Lumumba, initialement prévu en juin en raison d'une hausse exponentielle des cas de COVID-19, a annoncé samedi le président Félix Tshisekedi. La cérémonie est reportée au 17 janvier de l'année prochaine, 61e anniversaire de la mort du héros de l'indépendance Patrice Lumumba, exécuté avec 2 frères d'armes par des séparatistes du Katanga avec l'appui de mercenaires de l'ancienne puissance coloniale belge. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain dans 55 minutes.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Nous parlons de l'institution du mariage chrétien. Eric Mandela Kiza avec vous, Lionel Lunanila Gaïma assure la mise en onde. Le mariage dans la tradition chrétienne est l'alliance d'un homme et d'une femme pour former couple et fonder une famille. La religion chrétienne formalise cette institution naturelle par un rite religieux, le sacrement de mariage, tout en l'inspirant, présentant un idéal de communion spirituelle et la réglementant dans le vécu des personnes concernées. De ce fait, des traditions différentes existent aujourd'hui dans les aires culturelles où les diverses branches du christianisme ont étendu leur influence. Cependant, les prêtres catholiques ont béni lundi 10 mai dans toute l'Allemagne le mariage de couples homosexuels, un acte de rébellion face au Vatican qui a récemment réaffirmé son opposition. Nous en parlons dans un instant. Nos invités ce soir, le père Gérard Mouret, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York, mais aussi professeur de droit canonique. Père Mouret, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Bienvenue dans le dialogue des religions.
C'est un plaisir de parler avec vous et avec nos auditeurs.
Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership à l'Université Saint-Thomas dans le Minnesota. Merci beaucoup. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous êtes également prêtre.
Oui, je suis prêtre catholique, oui.
En France, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, Athanase Karayenga, journaliste et consultant indépendant. Bonsoir Athanase.
Bonsoir Eric. J'ai moi-même suivi une formation, pas de prêtre, mais de demi-prêtre, puisque j'ai juste fait le petit séminaire. Je ne suis pas allé jusqu'au grand séminaire et je connais bien le Vatican parce que j'ai effectué plusieurs missions concernant la visite du pape Jean-Paul II au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie et en Côte d'Ivoire.
Merci à vous tous d'être avec nous. Professeur Bonguila, je vais commencer par vous. La Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican avait publié une note qui réaffirmait considérer l'homosexualité comme un péché et confirmer les possibilités pour les couples de même sexe de recevoir le sacrement du mariage. Au regard de ce qui s'est passé le 10 mai, est-ce qu'on peut dire que le sacré n'est plus sacré?
Le sacré est toujours sacré parce que la Congrégation pour la foi a réaffirmé cela. La Congrégation pour la foi a bien déterminé que les homosexuels ne sont pas pécheurs. L'homosexualité n'est pas un péché, mais c'est l'acte visant vers l'homosexualité qui est un péché. Donc l'Église n'exclut pas les homosexuels. L'Église considère, d'après le catéchisme, qu'ils sont nés de cette manière-là, c'est une orientation, mais que la vie consacrée, la vie du célibat, pas consacrée, je voulais dire la vie chaste, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que l'Église est en train de prêcher. Je reviens à plusieurs éléments, notamment parlant de la morale africaine, que l'Église devrait s'inspirer de la morale africaine. À plusieurs égards, l'Église s'est inspirée des éléments de la moralité ou de la culture africaine. Il y a beaucoup d'éléments de la culture africaine qui sont maintenant dans l'Église catholique. Ça dépend des pays et de culture. Mais quand il s'agit, par exemple, de l'homosexualité, nous ne devons pas oublier que l'Afrique est plus sévère même que l'Église, je crois. J'ai venu de lire dans quel pays, là, je ne sais pas si c'est le Ghana, où quelqu'un qui a attrapé un acte d'homosexualité, et où des gens qui vont attenter à un mariage homosexuel vont avoir une sentence de 14 ans de prison. Vous allez parler du Zimbabwe, par exemple, où c'est strict. Et je me rappelle quand Obama est allé au Sénégal, où il a essayé de parler de la liberté des homosexuels, et il en a parlé une fois. Après, on l'a pris à part pour lui expliquer que c'est des notions qui n'existaient pas dans leur culture. Donc, l'Afrique est grande, mais en général, l'Afrique est plus radicale. Et il me semble que l'Église n'aura rien à puiser de l'Afrique de ce côté-là. Parlons par exemple des normes du Moyen-Orient de 2000 ans qui n'existeraient auxquelles on ne veut pas obéir aujourd'hui. Mais ça, c'est l'origine des fois révélée, l'islam et l'Église catholique, et puis la christianité, le christianisme, je veux dire, et puis le judaïsme. Nous avons des documents sacrés sur lesquels on base la foi. C'est à partir de ces documents sacrés que l'Église se révèle à travers le monde et arrive à adapter certaines normes ou certaines cultures dans l'Église. Mais tout cela, ça part d'une centralité qui est pour nous la Bible, pour d'autres c'est le Coran ou la Torah. Sans cela, il serait difficile aujourd'hui de parler de l'Église catholique ou de l'Église chrétienne ou même des musulmans. Donc, il me semble que même la religion elle-même n'a pas d'importance. La religion, c'est simplement la liberté, que chacun vive de la manière dont il trouve que c'est important. Mais c'est ça, pour ça que nous avons la religion qui est comme le garant de la moralité. Et toute société doit avoir une moralité, une éthique. C'est vrai qu'il y a des points éthiques qu'un État ou un pays peut respecter et qui n'est pas accepté par la religion, mais la religion donne la fermentation même de l'éthique, et nous avons besoin de cela. Donc on ne peut pas complètement abroger ce que l'Église est en train de prôner ou de enseigner. Autrement, c'est la société qui s'émiette. Au contraire, mais vous savez qu'il y a plusieurs siècles, chaque siècle on pensait que l'Église allait mourir, mais c'est au fur et à mesure qu'elle continue à grandir. Maintenant, on a 2 milliards de membres dans l'Église, de fidèles de l'Église catholique. Et si vous prenez un sondage aujourd'hui de l'Église catholique, des membres de l'Église catholique, je parie que 75% d'entre eux, ils diront qu'ils sont en faveur de la structure de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je me dis que je garde ma foi en l'Église et ma foi en l'homme et à la femme, disant que nous allons vers... C'est sûr que la nature de l'Église changera au fur et à mesure que les hommes changent, mais elle restera intacte pour des éternités, me semble-t-il.
Père Mouret, est-ce que l'institution du mariage se modernise ou change? Comment vous envisagez son avenir par rapport aux contre-revendications exprimées par des prêtres allemands?
Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est horrifique, c'est une horreur, c'est une chose incroyable. C'est, comme vous avez dit, c'est une rébellion contre du Vatican, de l'autorité suprême de l'Église catholique. C'est le pape François qui a commandé la publication d'un décret récemment qui dit de nouveau ce que l'Église a toujours dit, que le mariage est seulement entre un homme et une femme et qu'on ne peut pas bénir ces unions, ces pseudo-mariages qui font les homosexuels entre eux. Et alors, simplement, on dit la religion chrétienne enseigne la vérité de Dieu et ça ne peut pas changer. Comme Dieu ne change pas, ce qui est vrai hier sera vrai demain. Et comme Dieu a créé Adam et Ève, ça c'est le modèle, c'est la nature du mariage. Et tout ce qui se passe à part de cela, c'est un péché.
Ce qu'on a vu, c'est quand même une rupture. Et ils ont baptisé cette initiative « L'amour l'emporte ». Est-ce que c'est l'amour qui l'emporte?
On est toujours présent dans le monde médiatique des efforts de confondre les gens en utilisant les paroles d'une manière qui n'est pas vraie, qui n'est pas honnête. L'Église catholique enseigne que Dieu est amour et ce que Dieu enseigne, c'est son amour traduit dans la loi pour nous. Alors, de dire que le mariage de deux hommes, c'est une forme d'amour, c'est faux. C'est un péché, c'est une offense en contre de Dieu. Même c'est une offense pour les deux de se faire pécher entre eux et de donner de mauvais exemples à la communauté. Parce que c'est une chose incroyable que des prêtres catholiques ont béni ces unions en pensant que c'est une forme d'amour qui plaît à Dieu. Quand Dieu a dit clairement dans la Bible, ce type d'acte, la sodomie, c'est un grand péché, c'est une offense de la loi morale contre la nature de homme et femme. Alors, c'est une fausseté, mais nous sommes habitués à ce type de procédure quand il y a une révolution. Au commencement, les gens disent des mensonges, disent des faussetés pour confondre, faire confusion.
Athanase, le mariage est sacré au niveau de l'Église catholique, mais vous vous dites Dieu est amour, pourquoi ne pas bénir ceux qui s'aiment ?
Mais non, ce que je dis, c'est que l'Église catholique, elle a perdu le monopole de la régulation des relations entre les hommes et les femmes, au moins pour deux raisons. Il y a deux églises chrétiennes importantes où les prêtres sont autorisés à se marier, et pourtant dans l'église anglicane j'ai jamais entendu parler de dévoiement de message messianique biblique juste parce que l'archevêque ou l'évêque est marié. À ma connaissance, les coptes, l'église orthodoxe, pardon, les prêtres et les prélats sont mariés, mais j'ai jamais entendu parler que leur prédication, leur normes, leur régulation des relations entre les humains qui passeraient par la religion sont de moindre qualité que l'Église catholique. Donc je crois que cette fiction que le prêtre ou l'évêque ou le cardinal catholique aurait le monopole de la bonne parole de Jésus ou d'amour parce qu'il est célibataire ou parce qu'il est chaste, c'est battu en brèche par d'autres églises chrétiennes, elles aussi, où son message est pertinent et entendu par d'autres milliards d'autres humains. La deuxième chose qui me semble un peu étrange, le pape Benoît XV, c'est le dernier...
Benoît XVI.
Il a aboli une congrégation de religieuses avant la fin de son mandat. J'ai oublié le nom de cette congrégation, qui était en fait un harem pour des prêtres catholiques. Il a dû abolir cette congrégation qui cachait en fait des femmes de joie pour les prêtres. Est-ce que vraiment une église qui a besoin de propager le message de liberté, d'amour, de relations, d'éthique, est-ce que l'église, cette église catholique, ne pouvait pas telle anticiper pour voir que le célibat est mal vécu par certains de ses membres et d'assouplir? Je ne dis pas que tout le monde doit se marier. Ça ne serait pas une bonne approche non plus. Il ne faut pas obliger tous les prêtres catholiques à se marier, mais ceux qui se marient, la parole, mais qu'ils le fassent dans la dignité et dans la fierté d'être des serviteurs de Dieu, me semble-t-il. Ça ne change rien à leur capacité à réguler les relations entre les humains en tant que prêtres mariés catholiques. Et aussi, cette question fondamentale de la femme, du rôle de la femme dans l'Église catholique, je ne comprends pas du tout, mais alors absolument pas du tout, cette sorte de complaisance à se servir d'une tradition qui a 2000 ans et à ne pas regarder en face que cette décision est choquante aujourd'hui. Elle est incompréhensible. Il y a peut-être 2 milliards de chrétiens catholiques dans le monde, mais c'est peut-être pas la population de l'Inde et de la Chine ensemble. Et je trouve que c'est choquant que même si ce dogme, entre guillemets, de l'Église qui écarterait les femmes de la gestion de l'Église et de la relation, même si ce dogme était appuyé par 99,9% de catholiques, ça en serait encore plus choquant, parce que ça, pour moi, ce n'est plus négociable. Et puis, je terminerai sur une notion que j'ai évoquée tout à l'heure, la notion d'éthique, de péché, de droit. Pour moi, la religion, je n'en fais plus ma tasse de thé, ça c'est clair. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui croient, qui pratiquent, qui vont à la mosquée, qui vont à l'église, qui vont dans les buissons. C'est leur façon de vivre, elle est respectable et je la respecte. Mais pour autant, moi, je pense que la base de la vie des sociétés, la base qui régule les relations entre les humains, c'est le droit. C'est les droits fondamentaux des humains. C'est le droit à la vie, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit au travail, c'est le droit à un environnement. Et pour moi, le péché majeur, c'est de priver quelqu'un de la vie, c'est lui priver de la possibilité d'être étudiant, d'étudier, c'est lui priver de la possibilité de vivre dans son pays et de l'exiler comme au Burundi. Il y a presque un demi-million de Burundais qui sont privés du droit à vivre chez eux. Le péché, pour moi, c'est priver les citoyens du droit de s'exprimer, d'exprimer leur opinion, leur diversité d'opinion. C'est encore un cas que je connais trop bien, le Burundi. répondez, où vous, le citoyen peut perdre la tête parce que juste il ne pense pas comme le parti au pouvoir, parce qu'il ne pense pas comme le gouvernement. C'est inadmissible. Pour moi, c'est ça la civilisation d'aujourd'hui. C'est le droit des Chinois à l'éducation, c'est le droit des Mexicains à un bon environnement, c'est le droit des petits Français à la culture, c'est le droit des Russes à un environnement propre pour l'éternité. Et c'est le droit commun, c'est ça la nouvelle civilisation. Et l'Église catholique peut accompagner, peut préparer le monde vers cette égalité en droit et en dignité. Après tout, c'est toute première belle parole de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Pour moi, c'est ça la religion.
La congrégation que le pape Benoît XVI a abolie, c'est les Limbes, n'est-ce pas?
Je crois, oui. J'ai pas gardé à l'esprit son nom, mais c'est ça.
Professeur Bonguila, les mêmes prêtres qui ont béni l'union de ces couples homosexuels ont déjà annoncé que leur initiative du 10 mai baptisée L'amour l'emporte a bien vocation à se pérenniser. Elle concerne aussi les personnes divorcées qui ne peuvent plus voir une nouvelle union bénie par un prêtre. Il y a eu une pétition de 2600 prêtres qui a été signée par de nombreux théologiens et laïcs. C'était en mars pour contester justement la position du Vatican. C'est un symptôme du fossé croissant qui sépare une partie de l'Église catholique allemande du Vatican. Comment concilier les progressistes de plus en plus nombreux avec les conservateurs soutenus notamment par le Vatican? Est-ce que cette symbiose qui existe entre catholiques et protestants crée finalement les conditions d'une modernisation plus radicale?
Les contradictions dans l'Église ont toujours existé. Les schismes, mais je ne parlerai pas de schismes maintenant parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais des révoltes ont toujours existé dans l'Église, mais c'est toujours dans l'Église. Et l'Église arrive à rassembler ses enfants. Ce n'est pas dit que tout le monde aura la même position. Les prêtres, ces prêtres-là, l'Allemagne, ont pris position contre l'Église. Mais, comme j'ai dit, la société est en train d'évoluer. Il y aura moyen de mettre tous ces gens-là ensemble sur le plan du leadership. En fait, c'est une analyse structurelle qui devrait se faire. Et dans cette analyse structurelle, il faudrait que les opposants se mettent ensemble pour arriver à parler et arriver à s'exprimer dans une certaine démocratie. Et je crois que, comme j'ai dit, je suis optimiste que les choses vont aller de l'avant. L'Église a toujours marché à contre-courant de temps en temps. L'Église a toujours eu des revendications contraires. Et nous devons savoir que ça, c'est l'une de ces revendications contraires à la position de l'Église, mais il n'y a pas lieu à se décourager. Il n'y a pas lieu à dire que c'est la fin du monde, c'est la fin de l'Église. On avance. C'était comme ça avec Vatican II. Je l'ai dit au début. Vatican II, c'était pour revoir, visiter la société telle qu'elle avançait et voir le message que l'Église devrait apporter à la société qui était moderne à ce moment-là. Notre société d'aujourd'hui, c'est la société qui est en train de travailler avec les homosexuels, la société où vous avez aussi la pédophilie. Mais Athanase a bien dit ici que il y a certains prêtres qui ne vivent pas leur célibat. Certains, c'est bien dit. Parce que ça, c'est, nous parlons par exemple de 2%, 1% par rapport à la majorité de prêtres qui vivent leur célibat. On ne va pas dire qu'il faut abolir l'institution du célibat parce qu'il y en a 1 ou 2% qui sont en train de mal vivre le célibat. De la même manière, on ne va pas abolir l'institution du mariage, même s'il est le mariage civil. On ne va pas l'abolir parce que il y a 2 ou 3 personnes, ou il y a 2 ou 3% qui se livrent au concubinage, ou qui se livrent aux affaires extra-maritales. On ne va pas abolir cette institution-là. On part avec la majorité. À un moment donné, Athanase avait... Le problème, c'est que nous sommes en train de chavirer ici. Nous sommes là pour parler, en fait, de l'homosexualité, mais de temps en temps, nous allons vers l'Église. Donc, je me sens en train de vouloir rectifier les choses. Quand Athanase, par exemple, a parlé de la polygamie en Afrique, que l'Église n'avait pas pris position, ou que... Non, l'Église a pris position, c'est clair que dans l'Église, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, pour revenir à la discussion, je crois que Il y a une bonne manière de se faire entendre dans l'Église. J'aurais voulu, par exemple, que les prêtres allemands écrivent au Vatican. Le Vatican convoque un synode. Et s'il y a un synode, vous avez parlé d'un synode qui va se faire d'ici là. Il y en avait un il y a 2 ou 3 ans pour le Brésil, pour voir si on pouvait admettre certaines personnes qui étaient mariées à devenir prêtres. La décision était que non, c'était pas très approprié. Donc, il y a eu une façon de discuter les choses dans l'Église plutôt que faire une manifestation de cette manière-là qui créerait des tensions. Mais nous devons savoir que la tension, c'est aussi la source de beaucoup de solutions. Nous ne devons pas dire que c'est quelque chose à jeter. L'Église devra embrasser cela pour arriver à des solutions beaucoup plus neuves, beaucoup plus adaptées au contexte actuel.
Père Moret, j'ai parlé à une fervente fidèle catholique. Elle pense que ces prêtres allemands ont trahi la parole pour l'ajuster au monde moderne. Selon elle, l'Église va s'éclipser pour céder la place à l'anti-church. Elle parle même de schisme. De son côté, elle dit qu'elle restera fidèle à la vérité. Pensez-vous que l'Église, à travers le Vatican, va pouvoir sauvegarder ce sacrement malgré cette défiance de certains prêtres, notamment en Allemagne?
Oui. Non, j'étais très heureux quand le pape a fait publier ce décret de la Congrégation de la doctrine de la foi au mois de mars, disant que les prêtres ne peuvent pas bénir ce type d'union homosexuelle. Et je suis déçu après, parce que quelques évêques, on doit dire, ont soutenu les prêtres qui font ce type de désobéissance. Le Vatican n'a dit rien. Le Vatican doit agir pour faire simple et faire évident pour toute la communauté que les prêtres qui sont rebelles ne peuvent pas se considérer dans un bon état comme des modèles d'action. Malheureusement, l'Allemagne, c'était la terre où la réforme protestante a commencé. Et malheureusement, nous sommes en présence d'une autre action similaire qui vraiment, c'est une honte, c'est une chose incroyable. Nous sommes là, les chrétiens, pour vivre selon la loi de Dieu, pour écraser cette loi en faisant ce que nous voulons faire.
Que faut-il faire de ces prêtres qui se sont rebellés? Faut-il leur parler? Comment concilier ce mouvement libéral et les conservateurs?
La première chose, les prêtres qui font des actes en contre la loi de Dieu, ils doivent être punis par la loi canonique, ils doivent céder leur rôle dans l'Église jusqu'au moment où ils se repentent, ils se disent, ils regrettent ce qu'ils ont fait et ils doivent réaffirmer publiquement leur adhésion, leur croyance dans la loi de Dieu et dans l'enseignement de l'Église catholique. Dans l'Église, des subversifs, des gens qui se disent représentants de l'Église catholique, mais qui font des actes pour détruire l'Église catholique. Malheureusement, nous sommes dans le monde de grande pression des forces libérales de changer la culture chrétienne de l'Ouest en disant que l'homosexualité, c'est une bonne chose. On doit donner reconnaissance légale à ce type de comportement. Et l'Église dit non. Les gens qui ont des problèmes avec l'homosexualité doivent être aidés et guidés par la loi de Dieu. Et l'Église est là pour leur aider, pas pour bénir leurs péchés. Comme le Vatican a dit, on ne peut pas bénir des péchés. Alors, je suis très, très, très anxieuse au sujet de ce qui se passe, parce que je vois dans cela une autre étape de l'autodémolition de l'Église. Ça signifie que quand ces évêques font des choses en contre du bien de l'Église en disant nous allons suivre des nouveautés qui sont actuelles, en fait, ce sont des choses en contre la loi de Dieu. Alors, je prie pour l'Église et je prie pour le pape, parce qu'il doit confronter cette provocation en Allemagne.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci, Père Gérard Mouret. Vous êtes curé de la paroisse Sainte-Famille à New York et professeur de droit canonique. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre contribution.
Merci, Harry.
Merci au professeur Jean-Pierre Bonguida. Vous enseignez le leadership à l'Université Saint-Thomas dans le Minnesota. Merci beaucoup pour votre contribution.
Je vous en prie.
Merci à Athanase Karayenga, journaliste et consultant indépendant. Merci, Athanase, pour votre contribution.
Merci beaucoup, Eric. Si je peux me permettre, mon prénom, Athanase, c'est le prénom d'un évêque d'Alexandrie, en Égypte, qui, au IIIe siècle, avait mis tout le monde d'accord sur une notion qui s'appelle la consubstantialité de Jésus. Moi, j'ai hérité de ce nom, de ce beau nom, et je suis dans la consubstantialité de la liberté et de l'amour. Merci.
Merci de votre précision. Merci à Lionel Nanilagahima qui a assuré la mise en onde. Eric Mandela-Kidza a été avec vous à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.